Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou et Fanny Cohen-Moreau, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Valentine Chédebois. À la technique ce matin, Adèle Caglar. Porter son regard cette semaine sur un article intitulé « Vivre comme un chien » tiré du blog de notre invité et portant sur un tableau de 1665 du peintre néerlandais Peter Wouwerman intitulé « La foire aux chevaux de Valkenburg ». Un tableau sur lequel on aperçoit un petit chien obscur qui inspire à l'auteur du texte de gracieuses réflexions telles que « Au milieu d'une grande agitation de chevaux et d'humains et le tintamarre qu'on peut imaginer et presque entendre, le chien noir est la seule créature statique et silencieuse qui échappe à toute interaction, le seul être qui expose sa solitude, la nudité de sa présence. Il est le spectateur méditatif et dégagé des affaires mondaines, une place où je veux me tenir. » Peintre, auteur, plasticien et enseignant, et je ne dis pas tout, notre invité façonne une œuvre polymorphe et éclectique à la fantaisie réjouissante. J'aurais pu éviter les mots galvaudés de polymorphe et éclectique et vous dire que lorsqu'on va voir une exposition de cet artiste iconoclaste, encore un mot trop usé, on a l'impression d'assister à l'exposition de différents artistes. Cet homme multiple et érudit enseigne à Rennes et participera au salon Drawing Now au Carreau du Temple à Paris du 19 au 22 mai prochain sur le stand de sa galerie Anne Barrault. Sa première monographie arbore sur la couverture un chien de toute beauté et s'intitule « Du Fennec au Sahara » aux éditions Tombolo Presse.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Guillaume Pinard.
Bonjour Eva Bester.
Êtes-vous content d'avoir été mis au monde? Eh oui, on n'y échappe pas à cette question.
Ça va.
Je sens qu'il y a eu des négociations sévères.
Non, ça va. C'est plutôt... Ouais, non, c'est correct, ça va. Disons que le scénario est un peu confus, donc on s'y perd un peu, mais dans l'ensemble, ça va.
Ça s'est plutôt amélioré avec le temps ou c'est devenu plus difficile?
Non, ça va.
Ça stagne.
Ouais, ça stagne. J'ai la moyenne, quoi.
Comment se passe la cohabitation avec vous-même?
C'est pareil, c'est correct. C'est ni exaltant, ni terrifiant.
Peut-être que c'est ça la sagesse.
Peut-être, en fait, c'est pas. En fait, je suis peut-être arrivé au point nul. Studio où plus rien ne se passe.
Non, l'ataraxie, l'absence de souffrance.
Oui, voilà, j'en suis pas encore là, mais.
Oui. Vous dites, Guillaume Pinard, je n'ai pas vraiment envie de me lever, je me réveille tous les jours égaré. Alors, égaré dans quel sens? Vous ne savez pas où vous vous trouvez ou, ou égaré de façon existentielle?
Un peu les deux. Ouais. C'est un peu égaré parce que je fais partie de cette espèce qui a un réveil très très lent, qui n'aime pas tellement ça, ni se lever, ni se coucher d'ailleurs. Mais oui, dans l'existence aussi, un petit peu, ouais. L'histoire est un peu incompréhensible, donc forcément, on ne sait pas trop par où il faut recommencer tous les matins.
Et vous avez des motivations suffisantes. Je crois que, déjà, vous avez une œuvre d'art, ça doit être un peu excitant. Et puis aussi, vous avez aussi créé un être humain,
il
me semble.
Ah oui, j'ai créé un être humain, c'est vrai.
Oui.
Ouais, j'ai créé... Enfin, j'étais pas tout seul.
Oui, parfois c'est collectif en général.
C'est quand même un projet collectif, mais en effet, oui, j'ai une fille.
Et ça donne envie de se lever, ça, non?
Oui, ça donne envie de se lever. Enfin, il y a plein de choses qui me donnent envie de me lever en définitive, mais c'est plutôt un effet général qui fait que quand même on traîne les pieds.
Alors dans un instant, il sera entre autres question de baguettes magiques, de dimensions, de dictionnaires des années 60, du bonheur des morts, des sœurs Wachowski, de tennis, de Robert Walser, de René Lévy et d'insectes. Nous avons jusqu'à 11h pour aborder tout ça.
Dis-toi, tu ne ressembles à personne, mais tu me fais drôlement penser aux oiseaux, aux oiseaux. Dis-moi, je n'en ai plus la moindre idée. Nous sommes-nous retrouvés à cette terrasse de café? Quel drôle de jour, quel drôle d'idée de m'emmener chez toi danser quand ton cœur s'est accéléré. J'ai tout fait pour te résister. c'est un grand chassé croisé. Je suis bien trop sentimentale pour ce grand frisson plein été. Je suis bien trop sentimentale pour avoir déjà oublié.
Alexia Grédy, le morceau Drôle d'idée, dans l'embellie sur France Inter. Nous sommes avec l'artiste peintre, entre autres, Guillaume Pinard. Je vous ai demandé ce que vous aimeriez changer dans la société. Vous avez répondu ceci. Ma fille, à qui je viens de poser cette question pour m'aider à y répondre et à laquelle j'ai confié une baguette magique lui donnant tout pouvoir, vient de faire le vœu de changer la couleur du wasabi pour arrêter de le confondre avec l'avocat. J'aimerais avoir cette sagesse. Bon, alors votre réponse, Guillaume Pinard, en fait, c'est l'éloge de la fantaisie qu'on retrouve dans votre œuvre.
Oui, tout à fait, tout à fait. J'étais... Enfin, certaines des questions là de cet entretien me pesaient. Enfin, je savais pas comment y répondre. Ça m'écrasait en fait.
Et qu'il vous ressemble.
Je tournais en rond. Et puis à un moment donné, je lui ai posé la question et j'ai éclaté de rire. J'ai trouvé ça tellement drôle. Et en plus, bon, elle-même, elle est soumise aussi à l'époque et qu'elle ait cette sorte de légèreté et de d'écart. J'ai trouvé ça magnifique.
Une légèreté qu'on retrouve dans votre œuvre puisqu'il y a beaucoup d'humour, de ludique. On peut pas vous imaginer une seconde vous prendre au sérieux.
C'est quelque chose que je crains beaucoup. Je sais pas, j'ai peur qu'en fait les idées, les pensées ou les formes se cristallisent et se fixent et que pour le coup on commence à thésauriser ou à spéculer sur ces choses-là, ça c'est quelque chose que j'aime pas. J'aime que les choses soient en mouvement, qu'elles bougent tout le temps, qu'elles se déplacent et qu'il y ait de l'air quoi.
Mais ça bouge tout le temps quand on regarde vos tableaux. Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas votre œuvre, on peut vous voir tout nu avec des seins de femme et un raton laveur. On peut voir des excréments qui ressemblent à des créatures. On peut voir des paysages magnifiques. Et puis d'un coup, des sortes d'apparitions fantastiques, luminescentes, extraterrestres presque. On peut voir des autoportraits. On peut voir parfois des choses beaucoup plus réalistes où on dirait à nouveau que c'est un autre artiste alors que c'est vous et vous faites exprès. Pour ne jamais être prisonnier justement de ce que vous faites. Oui, on peut vous voir dans des autoportraits aussi qui sont des créatures, des fantômes. Enfin bon, là je dis tout ça de mémoire, mais...
Ouais. Non, j'essaye de pas trier en fait.
Oui, vous avez un goût pour le grotesque, pour l'absurde.
Oui, c'est tout ça, mais en fait chaque jour, j'ai à la fois cette mobilité dans le travail, elle aussi une sorte de mobilité dans ce que je regarde ou dans ce que j'aime. Donc il suffit qu'une journée je tombe, je sais pas, sur un paysage magnifique ou je sais pas sur un texte ou une image et tout de suite ça m'emporte et je me dis pas mon Dieu, ça rentre pas dans mon travail. C'est en fait j'essaye de mettre en place, il y a pas un système, une méthode qui fait que je peux tout accueillir. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a cette sorte d'hétérogénéité dans le travail. C'est que voilà, chaque jour j'essaye de simplement voir ce qui m'alerte ou ce qui me regarde ou ce qui me plaît et d'en faire quelque chose.
Quand je parlais de dimension ludique, c'est parce qu'on sent aussi qu'il y a une dimension vraiment de jeu. Déjà dans les titres de vos expositions, la Raccoon Academy avec les ratons laveurs qui vous suivent un peu partout, Bébé Lune, Où la ronce croissait, on a planté des roses, Vandale, vous avez fait aussi un livre pour enfants, des films d'animation assez loufoques, vous m'autorisez à dire loufoques ?
Oui, vous pouvez tout dire.
Phoque. Pamplemousse, un de mes mots préférés.
C'est bien, c'est pas mal, pamplemousse. J'aime bien patate aussi.
Patate est très rigolo, oui, et puis frontal et simple, franc du collier.
C'est ça, un truc direct.
Guillaume Pinard, il y a un de vos tableaux où il y a une créature qui a l'air effrayée, qui est au téléphone et qui dit « Allô, le réel ?» Je vais essayer de pas rigoler. « Allô, le réel, ça sent le caca, c'est normal ?» Quel est votre rapport au réel? Je vous le parle très très sérieusement comme Denise Glaser.
Justement, ça me plaisait d'interpeller le réel parce que je sais pas trop ce que c'est et j'aime pas trop qu'on utilise ce terme. Je trouve que voilà, souvent c'est un peu pour faire taire les gens en disant ah oui, tu manques, t'as pas de rapport au réel ou ton rapport au réel n'est pas suffisant. Ça j'aime pas et du coup ça m'amusait de lui téléphoner pour dire écoute, je sais pas qui tu es mais là où on est c'est pas terrible.
Il vous a répondu?
Ben non, j'ai toujours...
Bizarrement.
Toujours pas.
Difficile à joindre. Ouais,
difficile
réel.
À joindre.
Qui suis-je? Imaginez, sur une grande feuille de papier totalement lisse, des lignes droites, des triangles, des carrés, des pentagones, des hexagones et d'autres figures, sans épaisseur, dont le périmètre est dur et lumineux, et qui glissent et se déplacent comme des ombres, sauf en hauteur. Cet univers à deux dimensions... C'est le mien, le plat pays.
Je suis très heureuse de faire entendre cet extrait à un artiste qui a tué Pythagore en le représentant gisant sur le sol, une équerre plantée dans le front. C'est l'adaptation pour la radio de Flatland d'Edwin Abbott, publiée en 1884, diffusée sur France Culture en janvier 1996, une fiction sur un pays où il n'existe que deux dimensions. Vous entendez le personnage principal, un carré, joué par le comédien Christian Ruche. Guillaume Pinard, quand on vous interroge sur votre engagement, vous répondez avoir décidé un jour d'agir quotidiennement et exclusivement dans un espace en deux dimensions. J'essaie de m'y tenir et de résister à tout ce qui m'oblige ailleurs. Alors, vous parlez des cadres sur lesquels vous peignez et dessinez, les tableaux, les feuilles, puis les écrans aussi pour vos films.
Oui, c'est ça. Ouais. Après, ça semble être une décision comme ça un jour que j'ai pris de façon très péremptoire en me disant bon, ça y est, ça suffit maintenant. En fait, ça s'est un peu fait un peu naturellement. Disons que c'est l'endroit le plus. Oui, vous parliez de jeu tout à l'heure. En effet, pour moi, c'est l'essentiel en fait de tout ce que j'entreprends. Il faut que ce soit joueur et en définitive, l'espace de la peinture ou du dessin ou même du texte quand j'écris. Pour moi, c'est presque un, c'est pas réel, mais en tout cas, c'est un monde possible. Si c'est un monde possible, peut-être qu'il y a de la vie dans ce monde. Peut-être qu'on peut négocier avec ce monde. Peut-être qu'on peut interagir, peut-être même y être de temps en temps et passer du temps. Et donc voilà, c'est celui qui me convient le mieux. Et c'est celui
l'imaginaire.
C'est celui dans lequel je me sens le plus à l'aise.
Je connais cette réflexion. Quels sont les obstacles qui vous obligent ailleurs et comment y résister?
Les obstacles, c'est toutes les obligations de la vie courante.
Et vous y résistez?
Non, j'y résiste pas. Je suis très sage et discipliné, et je les accomplis avec un sérieux complet. Mais disons que l'application relation sociale qu'on m'a implantée à l'arrivée n'est pas très 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 opérationnelle. Je souffre un peu.
Est-ce que vous avez parfois l'impression de passer à côté de la vie ou de la troisième dimension?
Non, pas du tout. Enfin, de temps en temps, de temps en temps, quand je vois tout le monde s'amuser à côté, je trouve ça dommage de pas être avec eux. C'est comme ça en fait.
Dans vos deux dimensions, Guillaume Pinard, il y a aussi les murs. Vous faites des fusains muraux monumentaux, éphémères. Ouais. Ça ne vous fait pas peur que ce soit détruit à la fin?
Non, ça j'aime bien, au contraire en fait. Et puis même c'était la condition pour que je puisse faire ce type de dessins muraux, parce que comme je suis effrayé par les monuments et que en plus je reprends des espèces de colosses de l'histoire de l'art, ça me convient très bien que ces reprises et ces réapparitions ne soient pas soumis à voilà au tombeau ou au monument.
Il y a quelque chose qui va revenir tout au long de l'émission, c'est la notion d'intégrité et surtout d'être sa propre autorité. Bon, vous êtes un artiste assez inclassable et j'ai l'impression que vous ne faites pas à la manière d'eux, mais que vous allez au contraire au plus près de vous, ce qui fait votre singularité, votre originalité. Est-ce que vous avez mis du temps à vous trouver, à être aussi près de vous justement? Parce que vous savez, parfois on essaye de faire bien ou on essaye de faire comme.
Bah c'est ça en fait. Peut-être que parce que peut-être que dans la troisième dimension, dans la vie sociale, peut-être que j'ai déposé tout ce qui consiste à faire bien et à faire comme, et que j'ai trouvé justement dans cet espace un espace de liberté complète, et que j'y tiens beaucoup, et que voilà, et que j'ai pas l'intention qu'on y touche et qu'on je fais vraiment ce que je veux, et je sais pas comment le dire.
Bah comme ça.
Comme ça, voilà.
Vous traitez tout type d'image sans hiérarchie. On retrouve plein de références dans vos tableaux, mais ça peut être Pythagore, Mickey, Saint-Augustin, les jeux vidéo, Zelda, Rahan, les Pokémon, Tom Cruise dans votre livre À mort.
Oui, c'est tout ce que je regarde. C'est mais vous voyez, par exemple, Tom Cruise, c'est pas un acteur, même si j'aurais pu être fan, puisque c'est ma génération. Mais en l'occurrence, c'est pas quelqu'un que j'aime spécialement. C'est pas un. Mais en fait, à un moment donné, je suis pris dans une histoire. Je le croise sur ma route, commence à m'intéresser. Et à ce moment-là, je lis tout, je regarde tout, je me fais la complète et je me dis, ah oui, tiens, finalement, pourquoi pas Tom Cruise.
C'est vrai, pourquoi pas Tom Cruise. Parmi les lectures qui ont changé votre rapport au monde, Guillaume Pinard, il y a un dictionnaire Larousse illustré des années 60 et certaines encyclopédies. Dans une interview, vous dites que les premières choses que vous avez regardées, ce sont les pages illustrées des dictionnaires. Vous êtes, imaginé d'ailleurs, illustrateur de dictionnaires.
Ben oui, parce qu'en fait, quand j'étais enfant, j'avais pas idée que ça puisse exister de vivre en faisant de l'art. Ça m'était tout à fait étranger, et j'aimais dessiner tout simplement. Et ce que je voyais, enfin, en tout cas ce qui était le plus proche de moi, c'était des dictionnaires. Et je voyais qu'il y avait plein de dessins dedans, et je me dis, bah voilà, moi qui aime bien dessiner et qui aime bien ces livres, bah ça pourrait être peut-être un métier. Il y a des gens qui semblent vivre de ça, donc oui, j'imaginais ça au départ.
Aussi, cette idée à nouveau qui revient d'appréhension du monde en deux dimensions.
Ouais.
Parce qu'il y a le classement du monde entier dans le dictionnaire, mais à travers des images, c'est même pas... Comme si vous ne regardiez pas en premier votre environnement réel, pardon d'utiliser le mot réel à nouveau, et que vous préfériez l'appréhender à nouveau sur des images, en 2D.
Oui, c'est-à-dire que les deux se confondent, en fait, au bout d'un moment. Enfin, évidemment, là, en l'occurrence, le dictionnaire, quand ça a commencé, c'est vrai que, comment dire, c'est un livre qui a été très important, les encyclopédies de manière générale. Aussi, justement, pour cet éclectisme des images et des illustrations, le fait que, justement, il y a une sorte tous les sujets soient abordés, soient traités. Et puis, en effet, il y a cette idée de classement, mais pour le coup, celle-ci, elle est presque devenue problématique pour moi, c'est-à-dire que, parce que quand même il y a cette division du monde, cette séparation des choses, et puis pour le coup aussi quelque chose de très arbitraire dans la manière dont les choses sont divisées, donc c'est aussi à cause de ça qu'on se perd, quoi, qu'on s'égare, donc il faut un peu recoller les morceaux, ou refaire des liens entre les choses, ou essayer de remettre, je sais pas, recoller des bouts, refaire des trajets, continuer à s'égarer mais en mouvement.
Mais justement, ça, cet égarement et puis les liens entre les choses, ça semble vous obséder et constituer vraiment votre art, Guillaume Pinard. Je pense par exemple à votre monographie du Fennec au Sahara, qui était aussi une exposition. En fait, c'est un jeu du dictionnaire. Vous avez pris deux mots qui n'avaient rien à voir et vous tracez un chemin entre les deux. Et vous dites en fait que quand vous parlez de ce qui se passe dans votre tête pour lier tous les mots, vous dites que c'est entre un délire associatif et un travail d'enquête.
Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que spontanément, généralement... Bon, là, en l'occurrence, c'était vraiment, je partais vraiment d'un jeu que je faisais quand j'étais enfant. C'est-à-dire, je prenais un mot et puis je regardais les mots qu'il y avait dans le mot et je me disais, tiens, en l'occurrence, le mot Sahara dans le mot Fennec. Et puis, je me disais, est-ce que j'arriverais à tracer un chemin à l'intérieur du dictionnaire pour relier les deux mots? Donc, en l'occurrence, dans l'exposition, c'était une promesse non tenue, hein, mais il y avait quand même cette idée d'intention de se déplacer dans le texte. Et puis, j'ai oublié votre question.
On peut parler d'autre chose. Non, je voulais parler de délire associatif et d'enquête. Et puis, d'ailleurs, j'ai dit Fennec Sahara, aucun rapport. Si, un énorme rapport, justement, là, c'est presque délibéré de pas avoir.
Oui, mais ce qui est drôle, c'est que, par exemple, vous voyez, dans le mot Fennec, il y a le mot Sahara, en tout cas dans ce dictionnaire des années 60, mais dans le mot Sahara, il n'y a pas le mot Fennec. Donc, on est déçu à l'arrivée, on se dit, il y a quelque chose qui marche pas. Il n'y a même pas le mot sable dans le mot Sahara, dans la définition du mot Sahara. Et on se dit, c'est pas possible, il y a un truc qui colle pas dans cette affaire. Donc, forcément, ça donne lieu à des idées de peinture ou à des idées de représentation pour corriger le tir. Et dans cette idée de délire associatif et d'enquête. En fait, ça part au départ d'associations comme ça, un peu intuitives, ou des signes qu'on détecte, dont on ne sait pas exactement s'ils ont un sens ou pas. Et la plupart du temps, ils n'en ont pas. Et ensuite, il y a une sorte d'enquête qui, pour le coup, chez moi, peut aller très loin dans le délire, pour essayer de trouver une sorte de justification à cette association, ou de logique dans cette chose qui est apparue de façon complètement arbitraire ou de façon étrange.
Alors moi, je parle jamais de la mort, en fait. Je parle des morts parce que c'est la prise particulière que je me suis donnée. Mon travail a consisté à essayer de faire ce que j'appellerais, au sens deleuzien du terme, une éthologie des morts. C'est-à-dire quelles sont leurs manières d'être, quelles sont leurs puissances, de quoi sont-ils capables, de quoi les rend-on capables, comment peut-on les définir? Les définir non pas dans leur essence, mais dans ce qu'ils font.
La philosophe et chercheuse au département de philosophie de l'Université de Liège, Vinciane Després, dans l'émission « Permis de penser » de Laure Adler sur France Inter en 2015. Guillaume Pinard, vous avez choisi son essai paru la même année « Au bonheur des morts » dans lequel elle s'oppose à la notion de travail de deuil et montre comment les endeuillés accueillent les défunts dans leur quotidien puisque les défunts réclament leur place. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre que vous citez aussi dans votre monographie ?
Ouais, en fait, j'ai rencontré le travail de Vinciane Després déjà il y a assez longtemps parce que bon, comme je m'intéresse
aux animaux
beaucoup, c'est à part ce biais-là que j'ai commencé à la lire. Et quand ce livre est arrivé, comme je lis systématiquement tout ce qu'elle publie, je suis tombé sur ce livre. Et ce livre, en fait, il est arrivé vraiment au bon moment pour moi parce que j'étais justement dans ce travail de dessin muraux qui consistait pour moi pas simplement en fait à faire des reprises de tableaux connus, mais en fait avoir la sensation à un moment donné d'entrer en contact vraiment par ce travail de médiation du dessin dans des surfaces gigantesques dans lesquelles, vous voyez, lorsqu'on se retrouve devant un format qui fait plusieurs mètres carrés, au fusain qu'on est collé dessus sur un échafaudage, il y a ces sensations de vertige. Et puis aussi la manière dont parfois je les rencontrais, ces artistes, en faisant précisément des enquêtes. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire ces reprises, j'avais pas du tout, je suis pas parti de mon panthéon. Justement, comme je n'ai pas de panthéon, on m'invitait quelque part et je faisais une sorte d'enquête de terrain en me disant qui va se manifester à un moment donné. Donc, quand j'ai lu ce livre, cette façon dont les choses, les morts, en l'occurrence, ce ne sont pas mes morts, mais ce point de départ a quand même été celui-là. Mais en tout cas, avec ces artistes, il y avait l'étrangeté de rencontrer des artistes, parfois que je ne connaissais pas, des œuvres que je ne connaissais pas, souvent liées à des signes qui se manifestaient, un peu irrationnels.
Alors là, est-ce qu'on parle de choses ésotériques ou est-ce qu'on est dans l'ordre du symbolisme?
On est dans l'ordre de... Bon, je ne sais pas, je peux donner un exemple concret,
oui.
Mais
oui.
Par exemple, quand j'ai fait l'exposition à Rennes, au Musée des Beaux-Arts, c'était en 2012-2013, quelque chose comme ça, où j'étais invité pour... J'avais déjà ce travail de dessin muraux et de reprise de tableau et j'étais invité pour faire une reprise de la collection, d'une œuvre de la collection. Donc j'ai fait le tour de la collection déjà permanente, puis ensuite, comme j'ai pas trouvé un candidat, une candidate qui m'intéressait ou en tout cas qui me tapait dans l'œil, j'ai été dans les réserves et toujours rien. Et, donc je suis allé sur la base de données, il y a des bases de données, la base de données Joconde qui archive souvent toutes les collections d'un musée. Et à un moment donné, je suis tombé sur un tableau de Pierre de Bourgogne, un peintre que je ne connaissais absolument pas, une nature morte, mais qui me semblait tout à fait parfaite pour le format que je voulais faire, pour l'effet que je voulais donner, et je suis revenu très content au musée en disant bah voilà, j'ai trouvé le tableau que je vais faire. Et en l'occurrence, ce tableau avait été complètement oublié par les conservateurs, et puis la nouvelle directrice qui venait d'arriver ne pouvait pas le connaître, parce qu'en fait ce tableau n'avait pas été récolté depuis très longtemps. Il se trouve que l'exposition à laquelle je devais participer, qui était une exposition collective, s'appelait « Les inconnus dans la maison ». Donc voilà ce genre de signe qui tout d'un coup m'alerte et me fait dire que j'ai trouvé le bon candidat. Donc c'est un signe qui ne me pèse pas lourd, peut-être pour le spectateur qui vient après, puisqu'il est tout à fait invisible, mais pour moi qui a beaucoup d'importance, et qui me fait tout d'un coup entretenir une relation un peu particulière avec l'artiste qui s'est manifesté de cette drôle de manière. Mais c'est important, et c'est pour ça que ça me plaisait dans le livre de Vinciane Després. Déjà, j'aime beaucoup son travail, parce que c'est quelqu'un justement qui ouvre des espaces de pensée. C'est-à-dire qu'elle décloisonne des questions et elle libère des espaces. Et ça, je trouve ça, c'est ce genre d'intellectuel que j'aime beaucoup. Et puis dans ce cas-là, c'est aussi ce qu'elle fait. Il y a cette histoire de presque de contexte, comment dire, de zone d'enquête ou zone de rencontre plutôt. Hein, c'est un terrain. C'est pas la question de savoir si les morts existent. Enfin, les morts se manifestent vraiment ou si les gens, si c'est un effet du cerveau. C'est juste justement ce contexte de signes et de relations qui, en l'occurrence, existe chez tout le monde. C'est-à-dire que tout, tout le monde, toutes les personnes qui ont, ont perdu des gens, on continue à avoir des relations avec ces personnes ou avec ces morts. Donc, c'est pour ça que je trouvais ce livre, bon, là, j'en parle un peu mal, mais assez vertueux.
Guillaume Pinard, vous avez une œuvre hantée. Il y a des fantômes dans vos tableaux. Je pense par exemple au tableau qui s'appelle Ectoplasme unijambiste.
Ouais.
Et puis dans la peinture elle-même, il y a des fantômes dans le repentir par exemple. Quand parfois on repasse au-dessus de quelque chose, en fait il y a une sorte d'erreur sous la peinture. C'est quelque chose d'un peu fantomatique aussi.
Ouais.
Là je coupe les cheveux en quatre, mais pourquoi pas
oui,
au point où on en est.
Oui,
non, les fantômes, les corps, les nus, les fantômes, les présences, les absences.
Tous les corps, en fait. C'est ouais. Tous les corps. C'est, j'ai tous les corps et toutes les consistances de corps m'intéressent. Et c'est vrai que je m'aperçois que, en fait, 99% de mon travail, ce sont que des corps. Et même quand il y a un paysage, j'ai toujours besoin de mettre quelque chose, quelqu'un dedans. Un animal ou souvent un animal, mais j'ai besoin de voir les corps. Je suis absolument fasciné par, par ça. Et les fantômes, en fait, c'est une, justement, pour revenir au livre de Vincent Desprez, ils existent pas en termes de, je vois pas des fantômes traversés, mais ils existent, dans l'imaginaire, dans la réalité du monde, on en parle, ils sont pas.
Donc symboliquement, parfois, ou comme des images, ou des réminiscences, des spectres, des symboles.
Oui, ils occupent une place en fait, tout simplement.
Oui.
Ils occupent une place. Donc,
dans l'esprit, ça suffit.
Ils occupent une place dans l'esprit, dans les conversations. Donc, ils ont une forme de réalité avec laquelle il faut
composer.
Il faut composer ou avec lequel on peut tout à fait, jouer aussi. À jouer avec les morts, c'est bien.
Avec leur consentement, oui.
Bien sûr.
All drivers to your cars, please. All drivers to your cars.
Personne en Amérique n'oubliera jamais le tragique destin de Rex Racer. La course a failli ne pas s'en remettre.
Un des meilleurs pilotes qu'on ait vu sur le circuit.
C'est un déshonneur pour sa famille et pour son sport.
2008, extrait du film Speed Racer des sœurs Wachowski que, je vous cite Guillaume Pinard, le livre épatant du journaliste Julien Abadi, Speed Racer, les Wachowski à la lumière de la vitesse, m'a fait redécouvrir. C'est un film adapté d'une série animée japonaise, Mash Go Go Go, créée par Tatsuo Yoshida en 1967. Alors, je l'ai vu, on dirait un jeu vidéo sous LSD, et j'ai pensé aux Power Rangers, à Charlie à la chocolaterie, à Orange Mécanique, à Tron, au Fou du Volant, à Pierre et Gilles, à plein de références, donc ça m'a pas étonné que ça vous plaise. Surtout que le film a développé une nouvelle technologie, la 2D et demi.
Ah oui. Oui, non, mais j'avais vu ce film, je l'avais pas vu au cinéma quand il était sorti, je l'ai vu quelques années plus tard, je sais pas, aux alentours de 2010, et en fait, j'avais adoré ce film. Mais, non seulement adoré visuellement, plastiquement, et en plus, c'est un film qui m'a bouleversé. En fait, ce film m'émeut. Et donc,
j'avais... Pour les auditeurs, pouvez-vous dire de quoi il s'agit?
Alors en fait, voilà, l'histoire est assez simple. C'est une famille une famille dans lequel, enfin, qui a une écurie de courses. Et il y a un fils qui semble, au début du film, dont on comprend qu'il a été une sorte de héros de la discipline de la course, mais qui est mort. Et puis un plus jeune fils, Speed Racer, qui était donc dont le grand frère était le héros et qui lui-même veut faire de la course automobile et donc se lance aussi dans cette carrière de coureur automobile, devient lui-même une sorte de génie de la course automobile. Simplement, il est approché par une entreprise très capitaliste.
Le
grand méchant, vraiment, c'est le méchant, la caricature du méchant capitaliste. Celui qui veut l'acheter, voilà, qui veut l'amener dans son écurie et qui lui explique que, en fait, c'est une affaire d'argent, c'est pas une histoire de passion, c'est pas une histoire c'est du fric, la course. Et donc, tout est truqué, tout est pipé et que, en fait, ses rêves, voilà, c'est des enfantillages. Et le film, voilà, finit par donner raison à Speed Racer. Ça, ouais. C'est beau.
C'est à nouveau l'intégrité contre le grand capital et la prostitution.
C'est ça, ouais.
Et on continue, mais version tennis.
Regardez la position de Chang.
Il est sur la ligne de service.
Sur la ligne de service. Il provoque. Il va chercher, il cherche la double faute.
Et Lendl proteste.
Non, il demande un premier service. Mais M. Hinks ne lui accordera pas, il n'y a aucune raison.
Mesdames et messieurs.
Regardez Chang.
Ah, il est deux bons mètres dans le court.
Et voilà,
double faute, il a gagné. Victoire incroyable de Michael Chang qui s'écroule sur le court. Il a provoqué Ivan Lendl et ça a marché. Il l'emporte en 5-7. Il est fou de rage, Ivan Lendl. Il lui serre la main, mais franchement, quel incroyable retournement de situation et surtout quel incroyable cinquième set, puisque Michael Chang, au début de ce cinquième set, il menait alors 2-0. Il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus bouger sur le court. Et là, il craque, Michael. Il pleure dans sa serviette.
Lionel Chamoulot et Patrice Dominguez commentent un moment de match de légende, le huitième de finale entre Michael Chang et Ivan Lendl à Roland-Garros le 5 juin 1989. Michael Chang a 17 ans à l'époque, Ivan Lendl est numéro 1 mondial. Et je vous laisse nous raconter pourquoi ça vous fait penser à Speed Racer, Guillaume Pinard.
Alors, ouais.
Parce que c'est David contre Goliath.
Alors il y a ça, mais... Il y a aussi quelque chose qui est... Il y a David contre Goliath, évidemment, ça c'est le jeune joueur de 17 ans qui arrive contre le numéro 1 mondial, le type indétrônable, qui est sur sa surface de prédilection et qui le fait tomber. Il y a ça. Mais aussi, il y a la manière en fait dont ça se passe. Et c'est ça en fait que je trouve très beau dans ce match. C'est que, en fait, Michael Chang, il avait un problème pendant ce match. C'est-à-dire qu'il fallait pour qu'il puisse gagner ce match, enfin selon les pronostics, il fallait qu'il gagne vite, parce qu'en fait il n'avait pas le physique pour battre Ivan Lendl. Il était un énorme joueur, quelqu'un qui était déjà une sorte de prodige, une sorte de speed racer justement, qui arrive, qui sait tout faire, qui est un super jeune joueur, mais il sait que le temps joue contre lui. Il fait quelque chose pendant le match qui est, je suis presque ému.
Et vous étiez ému pendant l'extrait.
Ouais. Qui consiste à je vais pas réussir à le faire en fait, c'est très étrange.
Imiter le service à la cuillère ?
Non, c'est pas le service à la cuillère, il arrive à ralentir le jeu au point que à la fin quand on regarde le dernier set, il marche sur le c'est ce que raconte le commentaire. Il marche et on a l'impression que c'est que Ivan Lendl ne joue plus contre Michael Chang mais qu'il joue contre le tennis lui-même, comme s'il l'avait ramené au point zéro. C'est-à-dire comme si Ivan Lendl avait peur en fait de la discipline dans laquelle il joue. C'était comme s'il y avait le béaba. C'est ridicule d'être ému par ce truc-là.
Non,
mais
pas du tout,
fait,
parce qu'il déconstruit en fait
ouais,
le tennis.
Ouais,
il
ça.
Le décontenance au dernier moment en faisant des choses que personne ne fait.
À la fois, il déprogramme complètement la machine Lendl, mais en fait, c'est cette sensation très étrange de se retrouver comme ça. Enfin, c'est pour ça que ça m'intéresse le calendrier, presque plus l'effet Lendl que la manière dont c'est cette sensation comme ça de se retrouver presque pris dans sa discipline, piégé. C'est-à-dire que tout ce qu'on a mis en place, tout son professionnalisme, parce qu'en plus, c'est ça qui a fait que Lendl est devenu un grand champion. C'était quelqu'un qui a été professionnel avant les autres, mais voilà, ça tombe à l'eau et le visage de sa discipline le chasse.
On peut voir le match en intégralité sur Internet.
4h30.
Surprise, I don't think we'd run.
Jackie Down the Line de Fountains D.C. dans l'embellie sur France Inter, toujours en compagnie de l'artiste Guillaume Pinard.
Il y a des bouts de papier blanc, on ne sait pas de quelle provenance exacte. Il y a aussi des dos de calendrier, etc. En fait, des papiers de toutes sortes. Et Walzer, même dans les quelques rares allusions qu'il a fait à ce système micrographique, comme il l'a appelé lui-même, il n'a jamais fait état vraiment de ce qui nous frappe le plus, c'est justement ce caractère minuscule de ces lettres. Et puis, c'est l'éditeur des œuvres complètes, Jochen Greven, qui, le premier, a découvert que c'était tout à fait lisible, mais c'était une écriture manuscrite réduite à l'extrême.
Le professeur de littérature allemande à l'université de Lausanne, Peter Hütz, au micro de Pascal Casanova sur France Culture en 2013, dans un jeudi littéraire consacré au microgramme de Robert Walzer, dont vous recommandez la lecture pour se désarmer, Guillaume Pinard, alors qu'on vous avait demandé un livre qui arme. Ils sont retranscrits, ces microgrammes, dans le recueil Le territoire du crayon de Robert Walzer, donc il a rédigé ses microgrammes entre 1918 et 1933. C'était en fait sa vie secrète, puisqu'à Berne, du début des années 20 jusqu'en 33, il a une double vie littéraire. Il a une vie publique où il publie prose et poèmes dans les principaux journaux et revues de tout l'espace germanophone. Et puis, sa vie secrète sur ses microgrammes, une écriture microscopique au crayon sur des dos d'enveloppe.
Oui, oui, c'est des textes qu'on a découverts après sa mort et qui ont été mis, dont la traduction a mis beaucoup de temps, parce qu'en effet, c'est presque illisible. Mais j'aime beaucoup ce recueil parce que, bon, déjà, évidemment, j'avais découvert ce livre à partir des microgrammes eux-mêmes. J'étais un peu fasciné justement par quelqu'un qui a écrit dans une écriture complètement illisible, qui a une sorte d'économie très très simple. C'est presque un idéal comme ça d'avoir presque des petits bouts de papier, un crayon, un papier, et puis de construire une œuvre au fond de sa poche. Et donc ça, c'est quelque chose qui me touchait. Et puis après, il y a le style de Walzer qui est vraiment magnifique.
Ouais.
Je vais essayer de pas pleurer encore, mais
c'est magnifique.
Il y a une sorte de légèreté, une sorte d'ironie comme ça, mais toujours un peu jamais lourde. Toujours, ça parle de même les sujets qui sont abordés sont toujours assez légers, mais avec une sorte de raffinement. Et, je sais pas, la distance est toujours parfaite. J'adore me balader dans ces pas.
Il y a des choses très jolies. À un moment, il s'interroge, il dit « Comment puis-je supporter un monsieur tel que moi ?»
Oui, parce que ce qui est drôle dans le territoire du crayon, c'est que justement, il y a une sorte de réflexivité. En même temps qu'il est en train de raconter quelque chose, il parle de lui, de son travail d'auteur, il interpelle le lecteur de temps en temps. Donc il y a aussi cette sorte de conversation dans tous ces petits textes.
Il y a deux choses qui m'ont fait penser à vous, Guillaume Pinard, en le lisant, c'est... sa critique de l'idolâtrie du passé, notamment dans les salons, il dit qu'on fait pas assez confiance à notre époque et à nos propres capacités.
Oui, c'est vrai. Ouais. J'avais pas pensé à ça, mais je prends.
Et alors, il y a autre chose aussi que j'ai trouvé très jolie, c'est un moment où il dit « Je connais assez bien la France grâce à des tableaux de Lancret et de Watteau ». C'est un peu vous, ça, qui appréhendez le monde à travers les images.
Oui, c'est ça, ouais. Ouais.
Je vous ai demandé ce que vous aimeriez accomplir au cours de votre vie, Guillaume Pinard, et vous avez répondu « Avoir la force de réaliser d'autres livres ». Vous avez fait quelques livres,
ouais.
Je peux pas tous les citer, mais il y a « À mort »,« Un arbre, un mur, un bassin »,« Le clou sans tête ». Vous avez un sujet en tête. Non, et surtout, pourquoi la force demande moins physiquement que de peindre comme vous le faites, non ?
Non, en fait, c'est parce que, comment dire, l'échelle de temps, pour moi, c'est la journée. Donc c'est très facile pour moi de, enfin en tout cas c'est l'échelle dans laquelle je me suis à peu près structuré et dans laquelle je tiens le mieux. Tandis qu'un livre, je peux pas faire un livre en une journée, je suis obligé de me projeter, ce qui est très très compliqué pour moi. Donc c'est en ça que je parle de force. C'est plutôt un effort de me dire est-ce que je peux me projeter dans. Et généralement c'est toujours très long à faire et puis après voilà c'est aussi techniquement plus compliqué, etc. etc. C'est pour ça que je parle de. Mais bon, voilà, ça dit rien du contenu ou de, même si j'ai des idées, mais.
D'accord. Nous n'en saurons pas plus. Alors, je passe à la suite. Je vous ai demandé de choisir quelque chose de beau à recommander aux auditeurs, même à recommander, même pourquoi le E a disparu, on ne sait pas. C'est un tableau de l'artiste René Lévy, donc né à Istanbul, architecte de formation, formé à l'art à Zurich et enseignante à l'école des beaux-arts de Bâle. Le tableau s'appelle Simona. Il a été peint en 2019 et il est présenté jusqu'au 28 mai à la galerie Bernard Jordan dans l'exposition René Lévy, Alain Sicard. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette toile?
Oui, c'est un grand tableau. Alors j'ai oublié les dimensions exactes.
190 sur 340
centimètres. Voilà, c'est un très grand tableau. Une toile Donc, si on a une toile écrue sur laquelle René Lévy a fait successivement des ronds. D'abord des ronds blancs pour remplir toute la surface du tableau, et puis ensuite des ronds jaunes sur les ronds blancs. Donc le principe est très simple au départ. Mais en fait, j'ai choisi ce tableau parce que c'est la dernière œuvre que j'ai vue qui m'a particulièrement dernier coup de cœur ou je sais pas. Quelque chose qui m'a attrapé quoi. Je connaissais son travail depuis longtemps, mais là ce tableau quand je l'ai vu, il m'a vraiment fasciné. Parce qu'il y a quelque chose de très frais en fait dans ce tableau, d'hyper lumineux, une palpitation de la couleur. Il y a quelque chose de très ample, c'est très grand geste comme ça. On sent une sorte de déploiement c'est vraiment une embellie pour le coup. Et quelque chose qui a ensoleillé ma journée et un tableau auquel je repense en fait et qui maintenant m'accompagne et qui m'a fait aussi redécouvrir le travail de René Lévy que je connaissais, que j'aimais, mais qui m'avait jamais attrapé comme ça. Et en plus, voilà. Donc, il faut vraiment le voir, par contre, en vrai, hein, parce que ça, en image, ça donne rien. Vous allez voir des ronds sur une surface, mais pour avoir vraiment la palpitation du tableau, et puis sa taille, et puis il y a quelque chose qui se produit de très très étrange, c'est que sur les réserves écrues de la toile, il y a une sorte, persistance rétinienne, il y a une sorte de petit violet qui palpite, qui n'existe pas, mais qui apparaît quand on regarde le tableau, et une sorte de couleur fantôme. Je parlais fantôme tout à l'heure, qui est très belle.
Donc allons voir des fantômes violets sur cette toile. Et on arrive à votre engagement de fin d'émission, Guillaume Pinard, qui est de continuer de considérer l'existence de tous les insectes qui occupent ou traversent votre jardin. Vous mettez souvent des photos d'insectes en gros plan sur Instagram. Je clique parfois sur vos stories et j'ai des crises cardiaques assez régulièrement.
Ouais, là, je ne fais presque plus que ça et peindre.
Prendre des insectes en photo.
Prendre des insectes en photo et peindre. Oui, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un jardin depuis pas si longtemps.
Et, à Rennes.
Ouais, pas loin de Rennes, dans la Bretagne romantique.
Comme vous.
Et donc. J'ai retrouvé aussi quelque chose comme un peu de l'enfance, qui est cet intérêt pour les insectes, déjà qui existait chez les animaux, mais chez les insectes qui est vraiment mes chéris parmi tous. Parce que justement, je suis fasciné. Déjà, ça me rassure de voir qu'il y a encore des insectes. De voir qu'il y a cette diversité, cette multitude de ces mondes en fait qui cohabitent aussi, parce que c'est plein de monde en fait dans le jardin, c'est ça qui est très beau, c'est-à-dire qu'on a l'impression que des espèces de formes, de couleurs, de comportements différents coexistent dans des représentations probablement complètement hétérogènes et se croisent. Donc tout ça, je trouve qu'il y a une sorte de je trouve ça très beau. Le mouvement, la danse de tous ces petites bêtes au milieu d'un jardin, c'est etc. Toutes ces choses-là me touchent beaucoup et m'intéressent.
Les formes et les textures.
Ouais, les formes et textures. Non, puis c'est fascinant parce que moi, ce que j'aime particulièrement, c'est photographier des micro-insectes et s'apercevoir que ce sont des petits chefs-d'œuvre de couleurs, de formes, avec des raffinements absolument sensationnels. Et puis bon, aussi, c'est lié à une inquiétude donc partagée par beaucoup de monde. Donc en fait, c'est parti de l'idée de faire l'inventaire de mon jardin.
Merci beaucoup Guillaume Pinard pour cet éloge des insectes. Oui, merci d'être venu. Vous serez avec votre galerie Anne Barraud au salon Drawing Now au Carreau du Temple à Paris du 19 au 22 mai prochain. Votre galerie et donc vous-même êtes aussi invité à participer du 14 mai au 2 juillet à l'exposition Vallée des Merveilles proposée par Nina Léger et Karine Rougier à la galerie Espace à Vendre à Nice. Vous présenterez quelques-uns de vos films d'animation au cinéma L'Archipel à Paris le 27 juin à 19h30. Je rappelle le titre de votre monographie Du Fennec au Sahara, paru aux éditions Tombolo Press. Et pour la curiosité des auditeurs, votre blog personnel s'intitule « Pour salir le perron ». Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que vous avez le dynamisme d'un pamplemousse en roller. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.